Et 5h37 et on suit depuis deux jours déjà le procès d'Éric Salvaille.
Trois jours, c'est vrai.
C'est
la quatrième journée aujourd'hui. Là.
Tout à fait, t'as raison, Carole. Mm-hmm. On a eu la troisième journée hier et contre toute attente, Éric Salvaille s'est amené à la barre pour témoigner.
Oui, hier en fin d'après-midi.
Tout à fait. Et dans son témoignage, il a spécifié qu'il avait passé trois tests polygraphiques. Et moi, à ce moment-là, il y a plein de questions qui me sont venues en tête. Alors, j'ai décidé de contacter un expert polygraphe, M. Norman Kelly, qui a la gentillesse de répondre à nos questions ce matin. Bonjour, M. Kelly.
Bonjour, bon matin à vous et à vos auditeurs.
Vous êtes un expert polygraphe, donc vous faites passer des tests polygraphiques à des gens pour les besoins de la police, mais pour des besoins personnels également, là.
Oui, depuis, ça fait 15 ans que je fais de la polygraphie, en matière maintenant privée, mais autrefois, les 10 dernières années au sein de la Sûreté du Québec.
On a plein de préjugés par rapport à des tests polygraphiques. On a l'impression que, de un, c'est difficile de déjouer un test polygraphique et que, deuxièmement, notre nervosité pourrait induire en erreur un test. Expliquez-nous un peu le fonctionnement d'un test polygraphique et sa valeur.
Bien, il faut comprendre qu'il y a différentes étapes dans un test polygraphique. Dans un premier temps, c'est une procédure qui est standardisée pour qu'elle puisse être appuyée par la recherche. Donc, pour justement pouvoir arriver avec un taux de fiabilité, encore faut-il respecter justement une procédure. Donc, un test polygraphique dure environ 2 heures, plus ou moins, que ce soit en matière civile ou criminelle, parce qu'il y a différentes étapes qui sont avant de faire le test. Donc, on s'assure que la personne puisse connaître ses droits en rapport avec la Charte canadienne des droits et libertés. Ensuite, si la personne est apte à faire son test, parce que malheureusement, certaines personnes ne le peuvent pas, il y a également une discussion sur comment le polygraphe fonctionne, ses composants. Par la suite, ça nous amène à discuter de la version de l'individu, donc les raisons pour lesquelles la personne, le sujet, va passer le test polygraphique. Et ensuite, ben, il va avoir une étape, justement, de faire un test de démonstration, qui est finalement une pratique pour l'individu pour se familiariser avec la procédure. Et ensuite, on fait le test sur des questions préalablement établies. Et donc, il n'y a pas de question surprise dans un test polygraphique. Ensuite, les résultats sont analysés et la personne en est informée. Bien entendu, dans le cas où une personne échoue son test, bien, il y a un interrogatoire en bonne et due forme qui se fait par la suite pour tenter justement d'obtenir des admissions ou simplement des éléments permettant de pouvoir soutenir des accusations. Parce que, comme vous avez dit, le test polygraphique, bien, il faut comprendre que c'est une procédure que devant les tribunaux criminels, ce n'est pas admis. Toutefois, en matière civile, ben c'est le juge qui va déterminer justement après la prépondérance de preuves, l'espace qu'il va laisser au test. Bien entendu, après le témoignage d'un expert, s'il reconnaît ce témoignage-là, ben c'est le juge qui va en déterminer le poids à l'intérieur de cette procédure-là, en matière civile, j'entends.
Donc, le test n'est pas admissible. Par contre, l'entretien que le polygraphiste aura avec le présumé accusé pourrait, lui, être reçu?
Bien, c'est que toute l'entrevue est audio-filmée. Donc, bien entendu, les choses qui vont être dites par la personne peuvent être amenées à la cour, que ce soit favorable ou défavorable. Parce que à l'occasion, il peut, même s'il n'y a pas d'aveu ou d'admission, il peut y avoir des éléments probants qui sortent de l'entrevue de la personne qui peuvent amener justement le procureur de la Couronne de vouloir déposer cette preuve-là pour faire entendre l'enregistrement vidéo.
Dans le cas qui nous intéresse, celui d'Éric Salvaille, la question que je me suis posée hier, parce que plusieurs personnes ayant côtoyé Éric Salvaille disent qu'effectivement, il commettait des gestes, mais toujours sous le couvert de l'humour. Donc, si la personne, dans son intention, dans sa perception des choses, ne posait pas un acte criminel, est-ce que ça peut influencer sa réponse au polygraphe?
Bien, il faut comprendre que le polygraphiste professionnel qui va faire ce type de test-là va poser des questions objectives et non des questions qui vont toucher, par exemple, l'intention et au moment de la commission des gestes. Parce que, bien entendu, dans un cas, par exemple, d'agression sexuelle où personne ferait de l'exhibitionnisme, ferait des choses pour choquer, bien, il pourrait avoir à différents pourcentages. Donc, dans les gestes commis, il pourrait avoir le fait que la personne voulait choquer l'autre simplement parce que la personne voulait, par exemple, en tirer finalement un plaisir de nature sexuelle, bien entendu, parce que c'est des gestes à connotation sexuelle. Mais jamais il va y avoir des questions qui vont être demandées à un individu à savoir, au moment du test, quel était le pourcentage de vos intentions? S'agissait-il simplement d'une blague pour provoquer? Est-ce que c'était pour simplement amener du harcèlement à la victime ou déranger la victime ou encore tout simplement un geste à caractère sexuel pur? Donc, c'est pas ce qui va être demandé. c'est que, bien entendu, dans lors de la pré-entrevue, avant de passer au moment du test, ils vont être la première des choses que le polygraphiste veut savoir, quels sont les faits allégués. Donc, qu'est-ce que, par exemple, la victime a mentionné des gestes que monsieur aurait posés? Et donc, on ne sera pas dans l'intention, on va être dans les gestes. Et souvent, dans ces cas-là, c'est clair, la personne va nier, parce que si elle ne nierait pas, de toute façon, ce qu'elle viendrait de dire ne nécessiterait plus de test polygraphique. On passerait directement, justement, à une preuve avec des admissions, un aveu. Oui, donc la personne a va nier, bien simplement, par exemple, si on regarde le cas qui est présentement dans la presse, bien, c'est bien entendu que fort probablement que M. Salvaille a mentionné aux enquêteurs ne pas avoir été dans cette salle de bain-là en compagnie de la victime alléguée, ne pas avoir posé les gestes qui lui sont reprochés. Donc, à ce moment-là, en niant, bien, la question, c'est simple. Est-ce que vous avez, par exemple, dépendamment des gestes qu'on reproche à monsieur, on va demander des questions, à savoir, avez-vous exhibé votre pénis à telle personne, telle ou telle personne, à tel endroit?
C'est des questions plus directes, là.
Oui, bien, clairement, ce qui est reproché, si on dit que la personne a, par exemple, frotté son pénis sur la victime, bon, on va parler justement du geste qui est allégué, parce que forcément, on veut, la personne prétend qu'il s'est produit un geste répréhensible, bien, ça va être la nature de la question. La question, ça doit être la plus claire et précise possible, pour que le test, justement, puisse pouvoir être fiable et qu'on en tire un diagnostic qui va pouvoir aider la justice.
Hier, on a entendu, là, justement, dans le témoignage d'Éric Salvaille, qui disait qu'il a passé 3 fois le test du polygraphe. Qu'est-ce qui ferait que quelqu'un viendrait là, repasser une deuxième fois ou une troisième fois un test polygraphique?
Il y a différentes avenues possibles. Si on y va par élimination, on va y aller de la moins probable à la plus probable. Donc, la moins probable, c'est que, par exemple, une personne viendrait faire son test polygraphique, mais en cours de route, elle devient, par exemple, le test est incomplet parce que la personne n'est pas en mesure de le compléter pour via, par exemple, un état d'esprit ou simplement un état de santé qui empêcherait de pouvoir finaliser le test. Il pourrait être repris. Mais règle générale, parce que j'ai vu dans la presse canadienne, selon ce qui a été mentionné, que les tests auraient eu lieu à 2 jours d'intervalle. Donc, normalement, si on donne, par exemple, une période de temps à une personne qui aurait été incapable de le compléter, on va lui donner suffisamment de temps de pouvoir se représenter et être en mesure de pouvoir le compléter. Maintenant, ça, c'est la moins probable. Ensuite, ce qui pourrait arriver également, c'est que la personne ait fait, par exemple, une première fois un test avec un résultat diagnostique non concluant. Qu'est-ce que ça veut dire non concluant? Simplement que le polygraphiste, vu les tracés, n'arrive pas justement à une conclusion lui permettant d'établir un diagnostic, soit que la personne dit la vérité ou simplement la personne ment. Donc, on doit reprendre le test. Mais encore une fois, si on regarde les probabilités, si on est en présence de ce type de résultat-là, règle générale également, on donne à la personne, pour un résultat non concluant, une certaine période de temps tampon avant de la revoir pour être sûr d'avoir justement de maximiser les chances de pouvoir avoir un test qui avec un diagnostic clair, parce que souvent il y a des raisons qui vont, par exemple, militer au fait qu'une personne est non concluante. Maintenant, ce qui est le plus probable, avec ce que je vois dans la presse, là, si je parle en général, il semblerait qu'il y avait différentes victimes à différents moments, et donc c'est bien entendu que le polygraphiste, dans un test polygraphique, on ne mélange pas les accusations. On accuse, par exemple, une personne qui serait soupçonnée d'avoir fait un vol et un incendie, mais à des moments différents, et que les deux ne sont pas liés, on va faire un test sur l'incendie, et par la suite, on pourrait le revoir à un autre moment, simplement sur le test pour le vol. On ne mélangera pas les deux. On veut avoir un diagnostic clair, et on ne fera pas un test qui va, par exemple, toucher à différents crimes ou à différentes victimes à différents moments. Et donc, ça serait logique de croire, selon ce que je vois dans la presse canadienne, qu'on aurait invité M. Salvaille à faire... S'il a complété, parce que bien entendu, c'est en lien avec ce que je vois dans la presse canadienne, s'il a complété les 3 tests polygraphiques, on peut présumer que c'était parce qu'on parlait de faits et de victimes alléguées différentes, dans des moments différents, dans des contextes différents. Et à ce moment-là, le polygraphiste va justement s'assurer que chacun des tests, pour l'individu qui le passe, ben pour qui on le passe, c'est clair, puis également le quand, le comment, puis qu'est-ce qu'on lui reproche. Sinon, ça voudrait dire qu'au même moment, on aurait une multitude de questions pendant le même test qui amène la personne...
Qui pourrait venir semer un doute, là.
Bien, c'est surtout que la personne, pour le focus, pour donc se concentrer, on amène une personne et on lui pose des questions sur l'incendie avec de la maison de Pierre, de l'agression sexuelle de Jacqueline, puis également le vol de... Vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait, on comprend très bien. Juste en terminant, en quelques secondes, si on a amené le fait qu'on avait passé 3 tests polygraphiques, c'est qu'on suppose que les tests ont été faits avec succès?
Ce qui est fort étonnant, moi, c'est que simplement, quand j'ai lu le compte-rendu, bien entendu, je n'ai pas les notes sténographiques, je n'ai pas le verbatim de ce qui a été dit à la cour, à l'audience, mais ce que j'ai trouvé curieux, bien entendu, c'est que M. Salvay est quelqu'un qui, on peut dire, versé dans l'art de la communication. Mm-hmm. Quand on a mentionné à la cour que monsieur avait fait un test, son avocat, qui n'est pas non plus sans savoir que le test polygraphique en matière criminelle, ben on peut pas, il ne sera pas jugé recevable. Et donc, quand on le fait, quand on le soulève devant la cour en matière criminelle, c'est bien entendu, c'est qu'on veut que dans l'esprit du juge, dans un tiroir, quelque part dans sa mémoire, qu'il se rappelle que monsieur s'est soumis, donc a accepté de le faire. Et donc, de tirer l'inférence que monsieur, donc, il aurait réussi, c'est favorable. Ce qui m'étonne beaucoup, parce que les gens, règle générale, surtout quand ils sont préparés à témoigner, et que j'imagine ce qui a dû être le cas de monsieur Salvay, et même quand ils ne le sont pas, les gens, naturellement, vont dire, j'ai passé un test polygraphique et je l'ai réussi. Où j'ai réussi un test polygraphique. Dans ce que je vois, parce que, comme je vous dis, je n'étais pas présent en salle d'audience, je n'ai pas les notes sténographiques, ni le verbatim, mais ce que je constate, c'est qu'on parle de ces soumis. Et bien entendu, on ne veut pas se parjurer parce que des plaintes civiles sont toujours possibles. Et en disant « je me suis soumis », on pourrait l'avoir échoué. Et c'est que les gens peuvent dire « si en parle, c'est parce que probablement tirer l'inférence, comme je vous disais, on entend souvent, par exemple, les gens jouent avec les mots. J'ai passé le test du polygraphe.
Ouais.
C'est que quand vous passez un scan, est-ce que ça veut dire que vous l'avez réussi votre scan?
Positif ou
vous
négatif?
Avez passé un scan.
Pas nécessairement. Monsieur Kelly, on doit vous arrêter, mais c'était très fascinant et intéressant de vous écouter parler. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous rappelle que c'est Monsieur Norman Kelly qui est expert polygraphe. Merci beaucoup.
C'est mon plaisir, puis je vous souhaite une bonne journée à tous.
Merci bye-bye.